Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Yves Roucaute pour
Bonjour.
La sortie du livre et le numéro un des ventes, L'obscurantisme vers la véritable histoire de la condition humaine. Vous êtes numéro un des ventes, Yves Roucaute, c'est le livre événement du moment. Alors, j'aimerais commencer parce que, Yves Roucaute, j'ai devant moi un livre que vous avez publié il y a assez longtemps maintenant, Les démagogues. Ces démagogues, vous expliquez, ils sont tous à la pointe de fer, ils s'identifient aux masses, ils épurent, ils développent leur rêve suicidaire de conquête, de révolution, de création au forceps d'un homme nouveau, emportant l'adhésion fascinée des foules. Et quand je revois ce livre, qui a été un énorme succès, Les démagogues, Yves Roucaute, je me dis, il est profondément d'actualité, il nous ramène à cette actualité de l'obscurantisme vert.
Oui, tout à fait. En fait, on a affaire à une démagogie monstrueuse aujourd'hui et qui prétend sauver la planète, qui prétend surtout condamner l'humanité et la mettre en réalité dans une situation, j'ai envie de dire, de mal-être, sous prétexte que nous serions responsables de catastrophes présente ou à venir, d'apocalypse qui viendrait, donc, avec réchauffement jamais vu, des taux de CO2 jamais vus, etc., etc. Je passe sous ces détails, on pourra en reparler plus tard, mais ce qui me frappe surtout, c'est que ces gens-là profitent des terreurs, des peurs réelles, et aussi parfois qu'ils alimentent, pour essayer de vendre leur propre pouvoir. C'est-à-dire, c'est un petit peu la stratégie que nous avons connue à l'époque du marxisme, du communisme stalinien triomphant, où on nous montrait du doigt la misère sociale, qui était souvent réelle, la souffrance ouvrière, qui était souvent réelle, et ces mêmes démagogues rouges, à l'époque, nous disaient, donc, soutenez-nous, votez pour nous, adhérer à notre système totalitaire. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des réels problèmes dans la nature. Il y a des réels problèmes, nous faisons des pollutions, nous produisons des choses qui sont pas toujours favorables à l'humanité. Et donc là, nous avons des DMAE qui disent « Regardez les pollutions, je donne cet exemple de pollution, donc soutenez-nous, votez pour nous, adhérez à notre système totalitaire. » Et en fait, si vous voulez, c'est une démagogie monstrueuse qui conduit effectivement à un système totalitaire. Donc, le principe est vieux comme Hérode, j'ai envie de dire, mais la stratégie donc est vieille, mais la tactique est un peu différente aujourd'hui, puisque c'est au nom de la planète que tout ça se fait, ou au nom de l'environnement. Néanmoins, les conséquences sont les mêmes. Songez que aujourd'hui déjà, eh bien, nous avons ces démagogues qui prétendent nous interdire le foie gras, le barbecue, qui sapin de Noël, qui vont attaquer, qui vont crever les pneus des SUV, par exemple, ou les dégonfler sous prétexte que ça pollue, qui vont essayer de culpabiliser les gens qui prennent l'avion, qui vont, enfin voilà, c'est incessant, c'est toute notre vie qui en réalité est quadrillée par ces gens, et on doit comprendre pourquoi. Le fond de l'affaire, c'est que ils prétendent que nous sommes des sous-systèmes de la planète, et je démontre moi que c'est faux, mais qu'importe, ils prétendent cela, et donc, puisqu'eux-mêmes sont les représentants de la planète, eh bien, alors, ils disent qu'ils ont le droit de gérer notre vie quotidienne. De la même façon que les marxistes à l'époque prétendaient qu'ils étaient les représentants de l'histoire du monde et de la classe ouvrière, et donc qu'ils avaient le droit, puisqu'ils étaient l'histoire en marche, et la vérité en marche, et la science, comme cela aujourd'hui d'ailleurs, comme les verts aujourd'hui, prétendent aussi qu'ils sont la vérité de la science, eh bien, les marxistes d'hier prétendaient, au nom de l'histoire, qu'ils avaient le droit de regarder, de quadriller, même nos vies privées, et bien entendu, toute la vie politique, sociale, etc., collective. Donc, on a un phénomène qui est effectivement vieux, mais simplement, il est avec une nouvelle sauce. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait anodin de voir que, on a aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est que nous avons aujourd'hui une menace contre les démocraties libérales qui est sans précédent. Pourquoi ? Parce que nous avons la conjonction, en quelque sorte, la coordination de toutes ces forces contre la croissance, le productivisme, le consumérisme, le capitalisme, les démocraties libérales. Nous avons la conjonction de toutes ces forces qui sont venues de mondes différents. Par exemple, on a les anciens communistes recyclés, verts, on a les wokistes qui détruisent, qui veulent critiquer les fondements de notre société. On a donc les écologies de l'écologie profonde, ceux qui disent qu'ils sont pour un retour total à la nature. On a l'écologie plus environnementaliste, etc. On a des mouvements altermondialistes, on a tout ça. Tout ça se conjugue, et on le voit par exemple à travers l'ANUPS, tout ça se conjugue, mais pas seulement, tout ça se conjugue pour attaquer la même cité, c'est-à-dire la cité libre. Il faut imaginer pour
la cité libre occidentale, je précise, oui, occidentale. Est-ce qu'il y a des lobbies derrière tout cela qui peuvent être financés et parfaitement organisés visant à détruire l'Occident libre?
Si vous voulez, moi je suis pas du tout dans le complotisme, vous le savez, mais à l'inverse, ce que je constate, c'est deux phénomènes. D'abord, le premier phénomène, c'est comme je l'indique actuellement, pour comprendre ce qui se passe, il faut imaginer une grande ville. On va prendre Paris ou Marseille, qu'importe. Il y a plusieurs portes d'entrée. À toutes les portes, nous avons des attaques. Nous avons des attaques au nom du climat, au nom de la société, au nom du social, au nom de la misère, au nom du genre, au nom du passé, au nom, etc., etc. Toutes les portes, c'est un peu comme si vous étiez à Paris, on attaque par la porte d'Orléans, la porte de Clignancourt, la porte de Marchand, etc. C'est pour ça d'ailleurs que gagner les batailles, c'est difficile, parce que même si vous gagnez la bataille sur un point, les autres batailles, vous risquez de les perdre. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que on pourrait penser, puisque c'est soi-disant le monde de la planète, etc., que ces attaques-là se déroulent aussi en Asie, en Afrique ou ailleurs. Non, ces attaques-là, elles sont toutes organisées dans nos sociétés démocratiques occidentales. De la même façon qu'à une époque, là, François Mitterrand, vous vous souvenez peut-être, il avait dit les pacifistes, au moment où l'URSS menaçait l'Europe occidentale, et où il y avait des manifestations en Europe occidentale de pacifistes qui disaient « il faut pas s'armer, il faut pas s'armer, il faut la paix, il faut la paix », alors qu'on était menacé par l'Est, François Mitterrand disait justement « les pacifistes sont à l'Ouest, les armes sont à l'Est ». Et là, on a la même chose, c'est-à-dire que la Chine se moque complètement de cette affaire-là, même la Russie, l'Afrique rêve de notre modèle de croissance fondé sur les sciences, sur la liberté.
Le monde arabe, n'en parlons même pas.
Il s'en moque aussi. Et donc, en fait, nous avons affaire à une vague obscurantiste sans précédent qui prétendent parler au nom de la planète comme si c'était un vivant, comme s'ils savaient ce qui était bon pour la planète, comme si même ils avaient une connaissance de l'histoire de la planète qu'ils n'ont pas. Et donc nous avons une vague énorme qui veut détruire cette civilisation, veut détruire nos civilisations occidentales. Et donc ça, nos démocraties libérales. Et c'est vraiment très très important de le noter. Là, ils sont simplement dans l'Europe occidentale. Moi, je voudrais simplement dire une chose qui est importante, c'est que parce que le fondement de l'affaire, c'est que cet obscurantisme-là, il est un cache-sexe en réalité. La planète est un cache-sexe de ces gens qui refusent le capitalisme, le consumérisme, le productivisme, etc., etc., qui refusent nos sociétés occidentales. Parce que si vous regardez les arguments,
en clair, ce que vous dites, Yves Roucaute, quand vous dites ça sur ce fondement de l'affaire, ce cache-sexe, est-ce que c'est un peu le cheval de Troie de ceux qui veulent s'attaquer à la propriété privée?
C'est-à-dire que le fondement de l'affaire, moi je crois que il faut décortiquer tout ça, c'est ce que je fais d'ailleurs dans le livre. C'est pour ça que moi dans le livre, si vous voulez, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je réponds à toutes les attaques, ou pratiquement à toutes les attaques. Et j'explique au camp de la liberté et du progrès, nous sommes en train de perdre la guerre parce que nous ne la menons pas. Parce que nous ne la menons pas. Parce que si nous la menons, nous allons la gagner. Pourquoi? Parce que, en réalité, il n'est pas si difficile que ça de répondre à toutes ces accusations. Donc, nous avons la nécessité de nous armer idéologiquement pour répondre à ces attaques. Est-ce que alors je c'est vrai que j'ai à nouveau un peu dévié de votre question,
mais c'est pas grave, cher Yvon Côte. Moi quand je vous écoute, il y a aussi un point du livre qui m'intéresse, c'est cet aspect un peu religieux. De la même manière, il y a 4000 ans, on devait aller faire des offrandes au dieu de la pluie pour qu'il se mette à pleuvoir. Là, c'est le dieu du CO2. Le comportement religieux dans la culpabilisation, dans l'anathème, dans l'amalgame, dans tu seras banni de la société si tu ne vas pas au temple, il est identique.
Oui, il y a une inquisition qui effectivement a un caractère religieux, parce qu'en réalité, la démarche, elle est religieuse. Et vous parliez tout à l'heure, on n'avait pas fini de répondre à la question sur l'individualisme, oui. Sur l'individu et la propriété privée. Ce que ces gens détestent profondément, c'est la liberté individuelle. C'est l'individu en tant que tel. C'est pour ça, si vous regardez bien toutes leurs critiques, c'est la jouissance de ce corps, le plaisir, le fait de se retrouver. Alors, vous voyez, même aujourd'hui, on a toute une vague pour nous dire qu'il faudrait arriver à limiter nos plaisirs, nos désirs, etc. Il y a une attaque contre l'individu. Et c'est le centre de cette bataille, c'est l'individualisme. Et vous avez raison, nos sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que nos sociétés, elles disent, nous mettons au centre de la cité l'humanité. Nous montons au centre de la cité l'humanité de l'homme, c'est-à-dire son bien-être, la volonté de le faire prospérer, la volonté de le laisser s'épanouir, de laisser choisir sa voie du bonheur, par exemple, etc. Voilà ce que disent globalement, je la fais court, bien entendu, nos sociétés libérales. Elles croient, en fait, en la liberté et au chemin de la liberté. Qu'est-ce que disent ces gens-là? Ces gens-là disent ça, on leur refuse. À la place de la cité, on va mettre une idole qu'ils vont appeler la planète, ou d'autres noms d'ailleurs, ça peut être la classe ouvrière, ça peut être ce qu'on veut, mais là aujourd'hui c'est la planète, je dirais, l'idole dominante. Et donc ces gens-là, à partir de là, ils affabulent sur tout ce qui est, puisqu'ils réinterprètent tout à travers cela. Mais ils affabulent vraiment.
Oui, mais ce qui est intéressant, Yves Rocaud, dans tout ce qu'on a dit, quand on fait cette religion, ce parallèle avec l'obscurantisme, avec la religion, c'est que nos concitoyens semblent ne pas s'en apercevoir, rejettent cela. Comment expliquez-vous?
En réalité, il faut bien comprendre que nous avons affaire à une masse de démagogues qui trafiquent les faits pour attiser la peur de nos concitoyens. Et donc, en Occident, finalement, ça marche assez bien. Pourquoi? Parce que ils ont une influence monstrueuse dans les médias, ils ont une influence monstrueuse dans certains labos, et puis, il faut le dire aussi, il y a toute une industrie qui, en réalité, prolifère, pour le bien comme pour le mal d'ailleurs, sur ces illusions. Dans mon livre, je ne veux pas faire de polémique, moi, inutile, avec ces obscurantistes verts. Je me contente d'opposer les faits à ces affabulations. De la même façon qu'hier, les marxistes présentaient, les communistes à Moscou présentaient des films qui montraient des files aux États-Unis, à New York, à Paris, de gens qui allaient à la soupe populaire pour prouver que la misère ouvrière était énorme en Occident, que le capitalisme amenait la famine et le désespoir. De la même façon, aujourd'hui, on a une série de vidéos, de soi-disant textes scientifiques, de graphes colorés, etc., pour nous prouver que l'humanité est coupable. Et puisqu'elle est coupable de détruire la planète, il faudrait donc les appeler au pouvoir et leur donner les rênes du pouvoir et mettre en œuvre les mesures qu'ils demandent. Alors moi, dans le livre, si vous voulez, j'aurais pu faire un pamphlet ou un livre polémique au sens où on l'entend habituellement.
Vous avez le talent pour le faire. Vous l'avez prouvé par le passé.
Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire un livre qui rappelle les faits. C'est-à-dire concrètement, dans des courts
chapitres. C'est vraiment un livre de scientifique ou d'enquêteur ou de journaliste.
Oui, bah, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a quand même plus de 300 références scientifiques. Oui. Moi-même, si vous voulez, je suis quand même un logicien, un épistémologue. Oui. Donc, si vous voulez, j'ai même fait une thèse sur Max Planck, le théoricien de la théorie des quantas, etc. Donc, si vous voulez, je suis pas totalement étranger aux sciences, loin de là. Et tout ça pour dire que, pour revenir à ce livre, moi, dans des courts chapitres que j'essaie de rendre facile à lire, drôle, j'essaye de raconter la véritable histoire de la planète et la véritable histoire de la condition humaine. C'est-à-dire que ce que j'essaie, moi, je pense que en face de cette armada d'obscurantistes, de démagogues, de prophètes de malheur qui attaquent nos cités, je pense qu'il faut mener. C'est une attaque globale qui vise tout, qui vise l'histoire, le passé, le présent, nos valeurs, etc., etc. Il fallait répondre à toutes les attaques et pas simplement à une attaque. C'est pour ça que c'est pas un livre sur le climat, c'est pas un livre sur la météo. C'est un livre global qui répond à toutes les attaques. Alors, le livre commence en effet par attaquer notamment toutes ces élucubrations qui nous présentent cette idole planète comme quelque chose qu'il faudrait sauver ou qu'il faudrait idolâtrer et qu'il faudrait aimer. Moi, j'explique concrètement et je prouve que sur cette planète, qui existe depuis 4,5 milliards d'années, on va dire, eh bien, je prouve que sur cette planète, il a toujours été difficile de vivre parce qu'elle a exterminé 99,9% du vivant. Alors, quand je dis elle a exterminé, justement, c'est pas un être vivant. Ça a été exterminé par les phénomènes naturels. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idolâtrie à avoir. Et je prouve que 99,9% de l'humanité elle-même a été exterminée en raison des problèmes dû à cette planète, sur cette planète. Alors,
En résumé, il y a toujours eu des périodes très chaudes, d'autres très froides. Ça varie, elle nous bouscule en permanence. Elle nous brutalise, cette planète. Naturellement, elle nous a brutalisés. Moi, c'est ce que je retiens de la lecture de votre livre.
Les faits sont absolument sans appel. Je veux dire, on a, avant l'apparition de ce qu'on appelle les hominines, il y a 7 millions d'années. Donc, nos premiers ancêtres, si vous voulez, pas encore tout à fait des humains, mais c'est des préhumains, j'ai envie de dire. Avant l'apparition des hominines il y a 7 millions d'années, il faut savoir que sur cette planète, déjà, 99,9% du vivant a été exterminé. Justement, pourquoi? Parce qu'il y avait des réchauffements monstrueux, des glaciations monstrueuses. Songez que, simplement, par exemple, de 4,5 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, la moyenne des températures est toujours supérieure à 83 degrés centigrades Celsius sur la planète. Aujourd'hui, elle est de 15 degrés, vous voyez, alors quand d'ailleurs les petits bonhommes verts nous disent « on n'a jamais vu, il n'a jamais fait aussi chaud », c'est de la rigolade. Et depuis 2,5 milliards d'années, de la même façon, il a toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui, à l'exception des périodes de glaciation. Donc moi, je démontre période par période ce qui s'est passé. Alors là, les gens, ils adorent la météo aujourd'hui, parce que bien sûr, les écologistes parlent de météo. Moi, je parle des volcans, je parle des séismes, je parle des inondations, des tsunamis, avant même que l'humanité soit arrivée. J'explique que tout ça, c'était monstrueux et ça existait. Ce qui explique que 99,9% du vivant était exterminé.
Je m'arrête. Vous l'amenez même jusqu'au Moyen-Âge, et c'est ça.
Ah ben oui, mais bien sûr, non, bien entendu, parce qu'en fait, j'explique exactement ce qu'est la situation de la condition humaine. Nous ne pouvons pas survivre sur cette planète si nous n'assujettissons pas ce qui s'y trouve et si nous ne dominons pas. Nous ne pouvons pas survivre sur cette planète, et l'histoire l'a démontré, si nous n'essayons pas, à un moment donné, d'utiliser tous nos moyens, notamment nos moyens scientifiques, notre bon sens, pour essayer de résister aux terribles ravages que cette planète procure. Je donnais l'exemple, je donne deux, trois exemples qui sont amusants de temps en temps. L'exemple des dinosaures. Avant l'humanité, songez que les dinosaures vivaient avec une moyenne de température de 30 degrés centigrades, qu'il n'y avait pas de neige au pôle Nord. Et bien sûr, la planète n'est pas morte. De la même façon, depuis les hominines, donc 7 millions d'années, je raconte, il y a 6 millions d'années, par exemple, des températures de 30 degrés encore en moyenne que les hominines ont connues. Je passe. Le genre Homo, il naît il y a 2,8 millions d'années. Pour comprendre à quel point l'idolâtrie de la planète est une foutaise qui sert simplement à des démagogues pour asseoir leur pouvoir depuis 2,8 millions d'années. L'humanité a subi 17 glaciations, dont 4 monstrueuses. Elle a subi, et de la même façon qu'elle a subi durant tout même temps, parce que ça a continué, les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, tout ce que vous voulez. C'est tellement violent, la planète, que le genre Homo a été composé en tout de 22 espèces. 22. Sur 22 espèces, 21 ont été exterminées. Il n'y a plus un seul survivant de 21 des espèces. Et la nôtre. La dernière glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Il faut savoir que la dernière glaciation, ça veut dire 2 kilomètres de glace au-dessus de New York ou de Toronto. Hein. C'est pas n'importe quoi. C'est pas. Il fait un peu froid. Voilà. Il faut savoir que donc ils sortent de là. Il n'y a que 500 000 survivants. Et ça continue ensuite. Songez, parce que eux, alors là, les binomiaires, ils nous vendent de la climatologie à chaque réunion météo. Ils l'ont encore fait cet été. C'est du jamais vu. Jamais vu, vraiment. Il y a 4200 ans. Alors, c'est toujours trop vieux parce qu'ils étaient pas nés, les gars. Mais il y a 4200 ans. Songez que la plus belle civilisation humaine, j'ai dit la plus belle parce que c'est la plus avancée, c'est la civilisation d'Akkad. Les Akkadiens, ils ont occupé Sumer. Sumer a inventé l'écriture. C'est une civilisation merveilleuse. Il y a 4200 ans, elle est rayée de la carte à cause de la chaleur, qui a conduit une sécheresse tellement épouvantable qu'il n'y a plus un Sumérien qui existe. Elle est rayée de la carte, cette civilisation.
Géographiquement du côté de l'Irak et de la Perse. Hein.
Voilà, c'est là où les premières sédentarisations sont opérées. Quand il y a 12 000 ans, la dernière glaciation s'est terminée, venue des montagnes d'Anatolie, donc je raconte ça dans le livre, hein, dans le détail, eh bien, on a des tribus qui sont installées au bord du Tigre, de l'Euphrate, donc dans ce qui est l'Irak, dans cette zone-là aujourd'hui, et elles ont commencé à sédentariser, elles sont ensuite allées du côté du Nil, elles ont fait l'Égypte, parlons de l'Égypte, donc je vous disais, il y a 4200 ans, la sixième dynastie égyptienne, pareil, complètement rasée par ce réchauffement.
Ils n'ont
jamais bu.
Les pharaons ne roulaient pas.
Et ils connaissaient pas le sèche-cheveux. Non plus, d'ailleurs, on le connaissait pas non plus, d'ailleurs, dans la civilisation de Langzhou, en Chine, qui a été rasée par la même occasion. La civilisation de l'Indus en Inde, qui a été rasée par la même occasion. Je saute, et vous avez raison, vous me disiez Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, en 950, eh bien, il fait tellement plus chaud qu'aujourd'hui que les Vikings installent 2 colonies au Groenland. C'est d'ailleurs d'où vient le nom Groenland, terre verte, parce qu'en effet, il y a des pâturages. Alors, bien sûr, il y a encore des glaces, il fait pas aussi chaud qu'il faisait il y a 4200 ans ou avant la dernière glaciation. Mais il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Les variations climatiques sont une règle de la Terre. Et nous n'y avons malheureusement pas de, nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'efficacité sur ces variations-là, qui sont dues à des phénomènes bien connus. Par exemple, si on reste sur la révolution industrielle, les écologistes vendent depuis la révolution industrielle, il n'y a jamais autant de CO2, il n'y a jamais eu autant de pollution, il n'y a jamais eu autant de réchauffement. La révolution industrielle, c'est le 18e siècle. OK. Le 19e siècle, donc, ça commence 1800, de 1800 jusqu'à 1850, il y a une glaciation, enfin, pas une glaciation, mais une sorte de refroidissement très fort qui a été analysé par, notamment par le roi Ladurie, par beaucoup de savants, qui fait une montée très forte des glaciers, non pas un réchauffement. Alors, pourtant, c'est le charbon, c'est l'époque où on commence à faire du carboné, comme on nous dit, et puis il y a un refroidissement. Depuis 1850, il y a effectivement un réchauffement. Et il a rien, il fait 15 degrés en moyenne aujourd'hui, il a rien à voir avec les réchauffements qui ont eu lieu dans l'histoire de la planète. Ils sont mineurs. La place de l'homme, on nous dit, oui, c'est l'homme, parce que c'est à cause du CO2, le CO2. Depuis 541 millions d'années, donc je le prouve, encore une fois, plus de 300 références scientifiques dans mon livre, et je travaille quand même avec les labos les plus importants de sur ce globe, eh bien, parmi les très grands labos, eh bien, les recherches montrent que depuis 541 millions d'années, c'est-à-dire depuis qu'il y a des animaux marins pour aller vite, eh bien, les taux de CO2 ont été 8 à 17 fois supérieurs à aujourd'hui. 8 à 17 fois supérieurs. Aujourd'hui, ils sont de 415 PPM, on nous dit, parti parmi, PPM, 415, oh, c'est beaucoup, 415. C'est que dalle, excusez-moi, ils étaient 8 à 17 fois supérieurs à aujourd'hui. Et je rappelle pour la petite histoire que le CO2, les taux de CO2 à 415 ne sont pas dangereux. On a fait des expériences, là aussi, scientifiques, des vraies expériences. En dessous de 7 à 8000 ppm, il y a zéro danger. En dessous de 4000, on est absolument persuadé. 8000, il y a eu quelques hésitations. Si vous restez très, très longtemps, on a fait des expériences en sous-marin. Enfin bon, j'insiste pas. Je décris tout ça dans le livre. Il y a aucun danger. La vérité, c'est qu'on nous vend de la peur pour essayer de nous vendre des mesures anti-démocratie.
Liberticide, vous voulez dire.
Liberticide, bien sûr. Et parce que ces gens-là sont assoiffés de pouvoir. Et c'est le recyclage des anciens marxistes, c'est le recyclage des altermondialistes, c'est le recyclage de ceux qui détestent nos civilisations, nos valeurs, l'individualisme, le capitalisme, le productivisme, la croissance, etc. C'est du recyclage. Ces gens-là, ces gens, toutes ces armées viennent contre nous pour nous imposer un mode de vie qui est antinomique à notre histoire. À l'histoire de l'Occident. J'insiste sur un point, je veux dire, dans la série, délire absolu de cette idolâtrie de la Terre, on nous dit le CO2, le gaz à effet de serre, monstrueux, etc. D'abord, je profite de cet entretien que vous avez la gentillesse de donner pour dire à vos éditeurs, pour leur rappeler que sans gaz à effet de serre, nous mourons. Il y a eu des expériences, malheureusement, de planètes avec pas assez de gaz à effet de serre. On a même eu 3 épisodes dans l'histoire de la planète de ce qu'on appelle de terre gelée, c'est-à-dire complètement recouverte par la glace. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les débuts de vivants qu'il y avait ont été exterminés chemin faisant. Il faut savoir qu'en effet, eh bien, sans gaz et effet de serre, vous n'avez pas de chaleur possible, donc pas de vie. Les gaz à effet de serre font ce qu'on appelle une couverture chauffante sur la Terre. Alors on va dire, oui, mais parfois il est trop chaud. Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger. Et surtout, la deuxième chose à dire, c'est que le gaz à effet de serre, c'est pas d'abord le CO2. Le CO2, c'est qu'une partie mineure du gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, de 60 à 85%. C'est pour ça que on est dans l'affabulation idéologique la plus absolue. On nous dit, oui, mais alors, on va arrêter le CO2. D'abord, encore une fois, le CO2. Moi, je nie pas que les humains produisent du CO2. Oui, ils en produisent.
Mais c'est pas l'objet. C'était pas l'objet.
Exactement,
c'est pas l'objet.
C'est pas
l'objet.
C'est pas le problème. Exactement, c'est pas le problème. Oui, il y a un petit réchauffement, mais c'est pas le problème. Est-ce que l'humanité est coupable? La réponse est non. Quelles sont les forces monstrueuses qui sont en action et qui nous menacent? Tous les jours, séismes, inondations, tsunamis, etc., et qui menacent tous les vivants depuis des millions d'années. C'est, d'une part, l'axe de rotation et l'angle de l'orbite de la Terre qui varie sans que nous y puissions rien. On peut toujours prier Gaïa. Je suis désolé, ça n'aura pas d'effet, à moins d'être complètement niais. La deuxième chose, c'est l'influence, parce que la Terre n'est pas un écosystème. La Terre est un élément d'un système qu'on appelle le système solaire. Elle n'y a absolument pas un écosystème. C'est une illusion vendue pour la cause obscurantiste verte. La Terre est un élément écosystème. Évidemment, ça a des effets, le fait de dire que c'est pas un écosystème. Du coup, on comprend que cet axe terrestre varie en fonction du soleil, par exemple, des champs magnétiques, des vents qui soufflent à plus d'un million de kilomètres heure, des rayons alpha et gamma qui, entre parenthèses, sont arrêtés par les gaz à effet de serre. Parce que s'ils l'étaient pas, il y aurait plus de vie sur Terre. Donc, vive les gaz à effet de serre. Il en faut pas trop, évidemment. On est d'accord. Mais il est clair que c'est évidemment, faut arrêter de pleurer sur ces gaz à effet de serre. L'influence du soleil, il y a l'influence de la lune. Les gens, ces petits bonhommes verts, visiblement vivent entre Greenwich Village et les bobos de Saint-Germain-des-Prés, parce que très franchement, la lune, ça existe avec les marées, les champs magnétiques, les références, etc. Et d'ailleurs, ça joue aussi sur l'orbite de la planète. Ensuite, vous avez à l'intérieur de là. Alors, je parle pas des météorites, etc., parce que ça n'existe pas pour les petits bonhommes verts. Je rappelle que les dinosaures, ils ont été exterminés par ça, et que ils ne savent sans doute pas, mais c'est parce qu'il y a des météorites qui ont frappé la Terre il y a 4,4 milliards d'années, oui, qu'il y a de l'eau sur Terre. Mais enfin bon, j'insiste pas. Il y a aussi des phénomènes qui tiennent au noyau de la Terre, qui tiennent à son manteau et qui ont des effets sur la croûte. Vous croyez qu'en allant prier Gaïa, nous allons arrêter les volcans, nous allons arrêter les séismes? C'est de la rigolade. Nous n'avons aucun moyen d'empêcher cela. À l'inverse, par rapport à tous les malheurs que l'humanité reçoit. Ce que j'explique dans le livre. Parce que mon livre est un livre extrêmement optimiste, mais aussi positif. J'explique qu'il y a
tous vos
des
livres
problèmes.
Sont optimistes, même celui que vous avez écrit sur la France, Yves Roucault.
Et j'explique qu'en vérité, eh bien, nous avons des problèmes à affronter, mais les tsunamis, les inondations, etc., c'est pas par la décroissance que nous arriverons à l'arrêter, mais par plus de croissance. Je vous donne un exemple de malheur naturel qui nous arrive et qui détruit l'humanité. Les virus, dont nous parlons aujourd'hui beaucoup, les bactéries, certaines qui sont bonnes, d'autres malheureusement qui ne le sont pas, même les champignons pathogènes, etc. Comment nous allons lutter contre ça? Eh bien, nous luttons contre ça grâce aux sciences, d'accord, mais comment nous finançons les sciences? Mais grâce à la croissance. Comment est-ce que nous pouvons lutter, par exemple, les cancers existent non pas depuis aujourd'hui. Je démontre dans mon livre, j'avais fait un autre là-dessus d'ailleurs, que les cancers, la syphilis, la coqueluche, etc., existent depuis plusieurs millions d'années, prouvés dans les sites archéologiques. On a trouvé par exemple des cancers des os il y a plus de 400 000 ans. Donc, si vous voulez, sur les crânes de nos ancêtres, et des traces de cancers du cerveau d'ailleurs. Qu'importe. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons, grâce aux sciences, par exemple, les nanotechnologies, ça coûte très cher, la nanotechnologie, nous avons la possibilité aujourd'hui de commencer à combattre le cancer de manière très efficace. Grâce aux biotechnologies, grâce aux nanotechnologies, nous avons, bien sûr, grâce aux vaccins, etc., à l'hygiène, tout ça.
Ce qui est passionnant dans ce que vous dites, Yves Roucault, et là je voudrais rebondir sur un fait et avoir votre opinion qui corrobore tout ce que vous expliquez dans le livre. C'est pas dans le livre parce que ça s'est produit cet été. Votre livre a déjà été imprimé cet été. La grande sécheresse donc de l'été 2022 dans la vallée de l'Elbe, près de Prague. Tout le monde a dit que c'était catastrophique, qu'il y avait plus d'eau près de Prague. L'eau a tellement baissé. Je sais pas si vous vous souvenez, on a découvert ensuite ces pierres qui ont été gravées en 1400 avec cette inscription « Si tu me vois, alors pleure ». Et ces pierres de la fin, on les a appelées les pierres de la fin, datent de 1400. Et avant de voir ces inscriptions, eh bien, on disait c'est à cause du réchauffement climatique et de l'homme.
Oui, non, mais
ça corrobore tout ce que vous dites.
Oui, ça confirme ce que j'explique depuis dans mon livre. Ça confirme que le fameux réchauffement jamais vu, il faut acheter des lunettes rapidement, parce que évidemment l'histoire de la planète, c'est l'histoire de ces variations constantes. Il n'y a pas, si vous voulez, on vous parle de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, ça n'existe pas. Ou bien, il faut dire que c'est la règle. La règle, c'est le dérèglement, parce que justement, ces variations, c'est tout le temps ainsi. On a des réchauffements monstrueux, donc je crois que, je sais pas où on en était tout à l'heure, mais c'est les réchauffements, par exemple, donc les Vikings, puisque vous parlez de cette époque, c'est juste après les c'est juste après le Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, donc l'époque des Vikings, donc il fait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, avec donc ces colonisations du Groenland, deux grandes colonies et ensuite les pâturages, etc. Ensuite, eh bien là on est à la Renaissance, vers 1200, et là on a effectivement un refroidissement qui arrive. C'est normal, c'est les variations de la planète. Elle est toujours comme ça, suivie d'un réchauffement, suivie encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais durant donc la pleine période de révolution industrielle, d'un refroidissement. Le refroidissement des années de 1800 à 1850, pour aller vite, une cinquantaine d'années de refroidissement important, puisque les glaces se développent et surtout sur l'espace européen. Donc si vous voulez, dans le nord de l'Europe. Donc si vous voulez, voilà. C'est une règle habituelle. La Seine a été asséchée début du XXe siècle. On avait des températures en 1947 et 1949 jusqu'à 46 degrés dans les Raux. Donc, si vous voulez, bon, on peut toujours. Le gros argument, mais moi, quand je fais le climat, la météo, vous savez, ça m'amuse beaucoup parce que même s'il y avait eu un refroidissement, j'ai jamais vu ça. Même si, allez, on oublie 4,5 milliards d'années pour s'intéresser simplement à la date de naissance, ce qui se passe depuis la date de naissance de nos prophètes verts, de ceux qui nous vendent l'apocalypse météo. Même si on regarde les dernières années, je veux dire, entre 47, 49, même si on fait abstraction de 47, 49, etc. So what? Ce que j'ai envie de dire, c'est, et alors? Même si c'était vrai, ce qui ne l'est pas, même si c'était vrai, même si le réchauffement léger, réel, en quoi est-ce que ça prouve la culpabilité humaine? C'est exactement le contraire que ça prouve. Ça prouve que il faut continuer. Et à quoi, et en quoi est-ce qu'il faudrait du coup jouer la décroissance? Il faut au contraire continuer la croissance, aller de plus en plus loin, parce que c'est la seule solution pour affronter les aléas climatiques. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Comment vous voulez lutter contre les tsunamis, par exemple, si vous n'avez pas les moyens de les prévenir, et de prévenir, par exemple, les éruptions volcaniques, etc. Donc, il nous faut des moyens technologiques.
Des outils de mesure via les satellites, la mais protection des maisons en bien sûr, bord et de ça mer.
Coûte des, et ça coûte des fortunes. Prenez les cancers les dont on parlait rapidement. Les cancers, les maladies génétiques, les maladies bactériologiques, virologiques. Comment lutter contre si nous ne pouvons pas financer les sciences? Vous savez, je donne des chiffres clairs dans ce livre. L'âge moyen de vie avant la dernière glaciation, il est autour de 20 ans. On a 20
ça, c'est dans le livre, hein, vous expliquez bien.
Oui, oui, oui.
On a pratiquement rien gagné pendant des milliers et des milliers d'années.
Oui, oui, on a 20 ans. À la sortie, alors, attendez, il y a des gens qui vivent jusqu'à 40 ans.
Il y a des philosophes sous l'Antiquité grecque qui étaient là jusqu'à 80 ans. Hein.
Oui. Même avant la dernière glaciation, on a la fameuse Lucie, par exemple, il y a 3,2 millions d'années environ, qui a vécu jusqu'à 22 ans. On a quelques, mais globalement, l'âge moyen, c'est 20 ans pour aller vite, 19, 20 ans. À la sortie de la glaciation, il y a 12 000 ans, l'âge moyen, il est autour de 21 ans, 20 ans, ça tourne autour de ces âges-là. Et puis, lorsque on vient avant la dernière révolution industrielle, lorsque on arrive à la dernière révolution industrielle, eh bien, on a un âge de vie qui est globalement de 21-22 ans. Donc, on aura gagné un an, deux ans. Et puis, en 1960, donc la révolution industrielle est détestée par le petit bonhomme vert, a fait ses effets, l'âge moyen de vie sur le globe, il est de 52 ans. Aujourd'hui, il est de 84 ans dans les pays les plus développés. Tandis qu'il est de moins de 54 ans, 52 ans, par exemple, en Centrafrique, dans les pays qui n'ont pas la croissance. C'est pour ça que les petits bonhommes verts, ils nous disent, il faut la décroissance, il faut limiter la croissance, etc. Tandis que l'Afrique rêve de notre croissance, elle rêve de sortir de la misère. Je donne un deuxième exemple, si vous voulez. En 1981, les petits bonhommes en général, nos prophètes, là, ils sont beaucoup sonnés déjà. En 1981, il y avait 42% de la population qui gagnait moins de 1,9 dollars. Et à dollar constant aujourd'hui, au lieu de 42,7%, 42%, il y en a moins de 8% aujourd'hui qui gagnent moins de 1,9 dollars. 36% de la population était sous-alimentée en 80. 36%. Grâce au capitalisme, à la croissance, au productivisme, au consumérisme, il n'y en a plus que 8,9% aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, 8,9%, c'est trop. Oui, je sais bien. Les petits bonhommes verts, ils nous disent, là, les idéologues, ils nous disent, ah, regardez, il y a 8%, 9% de la population qui vit en état de sous-alimentation. Oui, c'est vrai. Et c'est triste. Et il faut arrêter ça. Mais la solution, c'est pas votre solution. La solution, c'est la croissance. C'est le mode de production productiviste que vous dénoncez. C'est le consumérisme dont rêvent ces populations sous-alimentées aujourd'hui. Si vous voulez, ce sont des faits. C'est des faits sans appel. La vérité, c'est que grâce à la croissance, grâce au capitalisme, vous savez, la Chine, elle est sortie de sa famine endémique, de sa misère. Comment ?
Et du communisme.
Ouais. Et du communisme en imitant le capitalisme. Alors bien sûr, on l'a bien vu avec un État
dictatorial.
Mais un état tyrannique. Mais en tout cas, elle a imité ce qui fonctionnait, parce que ce qui fonctionne, c'est la course à la croissance. Comment vous voulez arrêter, par exemple, les cancers, hein, la syphilis, la coqueluche, etc. Les cancers, ça existe depuis des millions d'années, des centaines de milliers d'années. On a, je le donne dans le livre, j'avais fait un autre livre là-dessus, on a trouvé des cancers des os, et même, on a les preuves des cancers du cerveau, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, sur les sites archéologiques. Comment on lutte contre ça? Eh bien, on lutte contre ça par l'hygiène, bien sûr, par les comportements, mais aussi par les sciences. Et comment on finance les sciences ? Par la croissance. Je donne un seul exemple. Les nanotechnologies, par exemple, sont en train, et les biotechnologies, d'aller casser le cancer. Concrètement, la course, la lutte contre le cancer, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, est en train de prendre un tournant phénoménal. Oui, mais ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher. Un médicament, ça coûte environ un milliard de dollars. Donc, ça coûte énormément. Un médicament qui réussit, je veux dire, ensemble de la production pour un médicament. Il y en a plein qui échouent évidemment en chemin faisant. Pour ça, ça coûte aussi cher, mais qu'importe. Ça coûte énormément cher. Les nanotechnologies, ça coûte énormément cher. Tout l'argent que nous mettons dans les éoliennes qui servent à rien. Qui, je ne sais pas si on a entendu tout à l'heure, mais des éoliennes qui, je le rappelle, ne sont pas durables. Hein, parce qu'on nous vend les économies renouvelables et durables. Non, attendez, le vent est durable. Okay, d'accord, renouvelable, ok. Le soleil aussi, ok. Mais les éoliennes ne sont pas plus durables que les moulins à vent hier. Le vent est durable, mais pas les moyens de le récupérer. De la même façon, à ce moment-là, tout est durable. Aussi le nucléaire, tout ce que vous voulez, le charbon, si vous voulez, etc. Les moyens de récupérer sont pas renouvelables. Les éoliennes, c'est une moyenne de vie de 20 ans, pas plus. Et encore, quand elles ne sont pas accidentées avant. Et les éoliennes, ça coûte extrêmement cher. C'est, entre parenthèses, ça produit du CO2 en masse, puisque c'est fait avec du béton, et que le béton, ça produit du CO2. Je rappelle que, précisément, 550 mètres cubes de béton à peu près sont nécessaires pour une éolienne terrestre, plus, bien plus pour les éoliennes marines, et qu'un mètre cube de béton, c'est 350 kilos de CO2. Fameux CO2 qu'il faudrait pour chasser partout, comme par hasard, on en met en tonnes, dans les éoliennes. C'est pas durable. C'est pas renouvelable. J'ai jamais vu une éolienne qui se reproduisait toute seule. Donc, il faut les enlever, à un moment donné. Après 20 ans, on les enlève. Si vous les enlevez pas, ça rouille. Je sais pas si le fait de rouiller, c'est très écolo. Il y a plus de 30 000 qui rouillent aux États-Unis aujourd'hui. Donc, on les enlève. Mais on n'enlève pas tout. D'abord, on laisse les deux tiers du socle de béton dans la terre. Donc, ça veut dire bonjour, merci. C'est peut-être écolo, le béton dans la terre, mais c'est une information nouvelle pour moi. Et puis, vous les enlevez, mais tout n'est pas recyclable. Très concrètement, les éoliennes, même les écolos disent, les écolos les plus profonds, les plus, disent, oui, on peut les recycler à 90%. C'est faux d'abord, c'est à 80%, mais qu'importe, admettons 90%, donc il en a 10% non recyclables, donc vous polluez en réalité. Alors que si vous prenez une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on constate ? Bien, on constate qu'une centrale nucléaire de taille moyenne va produire autant d'énergie que 10 000 éoliennes. Hein, 10 000 éoliennes. Un réacteur de 1450 MW, je ne vais pas rentrer dans les détails, produit l'équivalent de 10 000 éoliennes. Vous imaginez un réacteur. Alors, les écolos nous ont fait arrêter... parce que y a pas toutes ces tribus qui nous attaquent, les altermondialistes, les rouges, les verts, etc., etc., etc. Y a aussi tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont effrayés par le terrorisme intellectuel de cette armada obscurantiste qui et on le voit au niveau du gouvernement actuel qui ont peur, qui craignent ces écolos, donc qui font et alors on a fermé Fessenheim, on était sur le point d'arrêter une dizaine de centrales, etc. On a fait des erreurs parce que ces écolos, ils nous vendent leur salade, en réalité de la décroissance, de l'alternative, des énergies alternatives, ont aidé pour prendre le pouvoir. C'est ça qui les intéresse. Mais du coup, ils affaiblissent les démocraties occidentales. C'est pas pour rien, la dépendance de l'Allemagne par rapport à la Russie aujourd'hui est frappante. La dépendance de l'Autriche, la dépendance de certains nombre de pays qui n'ont pas voulu se lancer en nucléaire, qui ont arrêté le charbon. Le charbon, je m'arrête deux secondes, je suis pas contre l'arrêter. Le problème est pas là. Le problème, c'est qu'il faut une vraie alternative et que c'est pas les éoliennes l'alternative. L'éolienne, ça coûte cher, c'est pas rentable, c'est pas renouvelable. Et à l'arrivée, ça coûte beaucoup plus cher que d'aller chercher, que de produire de l'hydrogène, du nucléaire, ou d'aller chercher de l'énergie là où elle se trouve. Je rappelle que l'énergie est infinie sur le globe. Je le prouve dans le livre. Infinie. Je pourrais développer, mais on n'a pas le temps de développer. Et tout. Et, non, et, tout et, donc, et, donc, Et donc, ils nous affaiblissent, ils sapent la puissance de nos démocraties. Et donc, moi, le livre, c'est de dire, écoutez, première chose, pour le bien-être humain et pour sauver l'humanité, face à tous les défis qui sont là, des maladies, au séisme, tout ce que vous voulez, au réchauffement, glaciation, tout ce que vous voulez, la solution, c'est le savoir, c'est la science, c'est les lumières, les
Mais
vraies.
Vous dites aussi, Yves Côte, que les religions nous incitent à dompter la nature et la terre, et alors, ne pas être esclaves.
Alors, pas toutes les religions, moi, parce que la vague obscurantiste, elle n'envahit pas que les médias. La vague obscurantiste, elle n'envahit pas que le gouvernement. Elle envahit jusqu'aux églises. On le voit avec ces fameuses églises vertes, avec tous ces discours fantasmagoriques sur le fait que Dieu nous aurait demandé de protéger la planète. Alors moi, je suis un grand lecteur de la Bible, pour le coup.
Eh ben voilà, oui, mais ça, c'est la vraie religion.
Et la vraie religion, moi je suis un lecteur de la Bible, donc je regarde les textes, j'écoute ce que disent les rabbins, ce que disent les théologiens catholiques, protestants, orthodoxes, et moi je constate que tous convergent pour dire la même chose, c'est que dans la Bible il est indiqué qu'il faut dominer, que Dieu nous aurait créé, et qu'il faudrait dominer la planète et assujettir tout ce qui s'y trouve. C'est marqué non pas une fois, mais à plusieurs reprises dans la Bible.
Et vous le dites aussi dans toutes les religions.
Ah non, parce monothéisme. Que dans le bouddhisme,
oui, je parle des trois grandes religions.
Oui, c'est ça, les trois religions.
Trois grandes religions.
Bien sûr, même l'islam. Les trois religions toutes les religions qui s'accrochent au texte biblique disent évidemment toute la même chose. C'est pas soumettez-vous la planète. Mais entre parenthèses, la conquête spatiale elle-même montre que s'il fallait se soumettre à la planète, il faudrait l'arrêter, puisque visiblement il y a peut-être un départ de la planète qui croirait au moins pour une partie de l'humanité dans 100 000 ans, j'en sais rien, dans 10 000 ans. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais simplement, c'est deux choses. Première chose, et c'est pour ça que ce livre est important, je trouve, philosophiquement, théoriquement, c'est que...
Mais il est important et les lecteurs l'ont reconnu. Sinon, vous ne seriez pas numéro un des ventes, Yves Roucoult.
Et moi, ce que je dis, c'est, première chose, l'humanité, elle est naturellement en position, non pas d'être un sous-système de la planète, contrairement à ce qu'on dit, mais être en position de dominer, d'assujettir la planète, parce qu'elle n'a pas le choix. C'est la première chose à dire, parce que sinon, comme l'ont montré les 22 espèces du genre humain qui ont disparu et tous ces vivants qui ont disparu, tous ces animaux, sinon nous disparaissons, nous n'avons pas le choix. La deuxième chose que je dis, c'est que moi je suis un vrai écologiste, au sens fort. Écologiste, il vient du grec oikos, qui veut dire maison, ça n'a jamais voulu dire la planète. Oikos, la maison, c'est fait pour se protéger du froid, de la pluie, du vent, de la neige, de la chaleur, tout ce que vous voulez. C'est fait pour se protéger de la planète. Donc c'est un mode de défense, et autour de la maison, c'est fait pour utiliser les richesses de la planète, pour les transformer. D'où le mot économique, oikos, qui est le même mot oikos, la maison, c'est ce qui entoure la maison, et donc pour essayer donc de survivre en dominant et assujettissant la planète. La troisième chose que je dis, c'est que la vraie spiritualité, parce qu'en fait nous manquons de spiritualité, et je pense que c'est une des raisons de la force de ces troupes obscurantistes. Nous manquons de
spiritualité.
Voilà. Et la vraie spiritualité, c'est de dire, notamment à la jeunesse, qui est victime de cet obscurantisme en premier, c'est de lui dire, écoutez, vous avez à défendre une espèce formidable, l'espèce humaine. Vos ancêtres ont été des gens formidables. Parce que s'ils ont fait des erreurs, grâce à la croissance, grâce aux sciences, ils vous ont permis de survivre et d'être là. Il y a des choses qui vont pas bien, allez toujours plus loin, allez de l'avant, regardez vers l'avenir. L'avenir, c'est la créativité. Tout mon livre, si vous voulez, en vérité, le soubassement de mon livre, le fondement de mon livre, c'est de défendre la nature humaine contre les idolâtres de la planète. La nature humaine, j'explique, qu'est-ce qui nous a permis de survivre? Qu'est-ce qui fait que la mégafaune a été détruite? Qu'est-ce qui fait que nous avons pu survivre, même y compris aux glaciations les plus épouvantables? C'est parce que l'humanité est créatrice. L'humanité, elle crée sa maison. Elle crée son environnement. L'humanité, il y a des pollutions, c'est vrai. Eh bien, elle va créer les moyens d'en d'arrêter les pollutions. Par exemple, en utilisant, vous savez, ce qu'on appelle les algues bleues parfois. En fait, c'est un mauvais terme. C'est les bactéries, cyanobactéries, qui vivent notamment dans la mer. On les recrée artificiellement. Et grâce à ces cyanobactéries, eh bien, on va pouvoir, par exemple, détruire des pollutions. Par exemple, quand il y a trop de CO2 par les bactéries, on va pouvoir, par exemple, utiliser ces bactéries pour transformer le CO2 en oxygène et en énergie, par exemple en méthane. Je dis à la jeunesse, aimez la vie, aimez-vous vous-même, aimez l'humanité. Songez aux nanotechnologies qui permettent de transformer grâce à des nanoparticules d'oxyde de cuivre, le CO2 en méthane et en oxygène. Songez à toutes les merveilles que l'humanité produit tous les jours. Et s'il y a une dynamique qui va de plus en plus loin, de plus en plus forte, on vit de plus en plus vieux, de mieux en mieux, on domine de plus en plus, et demain, on va éradiquer le cancer, on va aller voyager dans l'espace, on va vivre plus vieux et en meilleure santé, etc. C'est formidable. C'est votre corps créatif donc qui produit cela, c'est le corps créatif humain. Donc je dis à la jeunesse, arrêtez de désespérer. Ces gens-là, ils vous vendent la peur, ils vous vendent le désespoir, ils vous vendent la nostalgie d'un monde qui n'a jamais existé. L'humanité près de la nature, l'humanité pendant 7 millions d'années l'a démontré, c'est la catastrophe, c'est la mort au bout du chemin. Aimez l'humanité, aimez sa créativité, aimez-la et soyez créatifs vous-même et défendez la créativité. C'est ça le message du livre, c'est défendez la créativité et c'est le message d'un livre.
Ça s'appelle « L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine » par le professeur Yves Roucaute, numéro 1 des ventes. Yves Roucaute, merci, vous avez gardé votre ton sans langue de bois, votre verve, votre passion, et on comprend pourquoi ce livre marche. On comprend pourquoi ce livre marche. Yves Roucaute, vous êtes philosophe, épistémologue, professeur des universités, vous avez travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, vous êtes agrégé de sciences politiques, vous avez signé des grands, grands succès de librairie, dont celui qui est toujours un de mes livres de chevet, qui est Les Démagogues, je trouve tellement d'actualité en ce moment. Voilà. Yves Roucaute.
Merci.
Et merci de nous avoir parlé de votre nouveau livre, L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine, aux éditions du CERF.